Tous les mardis dès 11h30 sur RTL Équipe, Carrément Rugby, Clément Grèze.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Carrément Rugby. Un Carrément Rugby au programme exceptionnellement chargé, vous vous en doutez, car à mesure que la fin de saison approche, la tension des matchs couperets monte. On en sait plus, bien sûr, sur les phases finales du championnat. Toulouse et le Racing directement qualifiés pour les demi-finales. C'est donc Castres face à Montpellier et Clermont contre Biarritz qui tenteront à domicile de se qualifier pour le rendez-vous marseillais. Mais l'actualité du jour, bien sûr, c'est la liste attendue des 30 pour la Coupe du Monde néo-zélandaise. Alors 30 ou 32, voire 33, vous l'aurez compris, des doutes en pagaille pour établir ceux qui doivent cette année nous apporter notre premier titre de champion du monde. Et qui, comment, pourquoi, Carrément Rugby se chargera d'établir sa liste et la comparera avec ce que Marc Lièvremont se chargera d'annoncer demain à partir de 11h. Un événement à suivre, bien sûr, en direct sur RTL Équipe dans Carrément Basket. Demain, de 11h30 à 12h30, présenté exceptionnellement par Luigi Collange. Toute l'actualité du rugby, c'est maintenant et pendant une heure sur le www.rtl-l'équipe.fr.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Rugby jusqu'à 12h30.
Carrément Rugby, comme tous les jours, dont vous pouvez retrouver la rediffusion, évidemment, comme toutes les carrément thématiques, hein, de 15h30 à 16h30 sur le www.rtl-l'équipe.fr, et un Carrément Rugby que vous pouvez également retrouver en podcast, hein, vous le savez, sur notre site internet, le www.rtl-l'équipe.fr, sur le site internet de RTL, également rtl.fr, la maison mère, sur le www.l'équipe.fr, l'onglet rugby, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour voir apparaître le podcast de l'émission. Mais s'il n'y a qu'une seule adresse sur laquelle vous devez vous rendre pour retrouver ce podcast, c'est bien sûr sur le site internet de Ludovic Ninet, le www.rugbyconnection.com. Ludo qui est excusé aujourd'hui car il se charge pour la Fédération Française d'établir des listes de joueurs. Alors il ne connaît pas la fameuse liste des 30, non, mais en revanche il nous renseignera évidemment la semaine prochaine sur la composition et sur les statistiques de tous les joueurs convoqués par Marc Lièvremont et l'ensemble du staff tricolore. Avec nous donc pour parler d'ici quelques minutes, Renaud Bourrel, notre confrère de l'équipe qui sera en notre compagnie. Pour l'instant, je me charge d'accueillir en studio 22 rue Bayard à Paris notre très cher Pierre Saviat. Bonjour Pierre.
Salut les rugbeux.
Comment ça va?
Pas mal.
Ça va pas mal.
Ça va être chaud, je pense, dans ces jours.
On attend tout ça avec impatience, évidemment. Et on rejoint également en direct de Toulouse Philippe Spangliero. Salut Philippe.
Salut à tous.
Comment ça va bien?
Ça va pas mal.
T'es encore
Philippe,
là, toi?
Non, Philippe, tu étais absent la semaine dernière pour la première fois depuis Mathusalem.
Je croyais que c'était pour tout le temps. Moi.
C'était peut-être bien une première dans l'histoire de Carrément Rugby, Philippe, pour partir en Argentine en plus.
Oui, mais je te remercie de m'avoir emmené d'ailleurs.
J'ai préparé la tournée des Barbarians qui aura lieu là-bas, où on a deux tests contre les Pumas, le 4 et le 11 juin.
T'as eu raison d'oublier l'un des créateurs des Barbarians français, mais c'est pas grave.
Pourquoi donc?
Est-ce que je revendique, bien qu'on le dise pas, je revendique l'idée et le soutien de la création des Barbarians français avec Jacques Fourroux et le président Ferras et Basquet. Mais ça, tout le monde l'a oublié.
Bah oui, on l'a oublié.
Écoute, j'étais pas au courant, tu me feras un cours d'histoire sur les Barbarians.
Tu regarderas qui était sélectionné dans la première équipe. Il y avait un Rochelet Magua d'ailleurs. J'y étais pas pour rien, non.
Pierre Salviac, on va pas se plaindre là pendant une heure, non, de pas faire partie du comité de sélection. J'ai bien compris que directement tu voulais payer Philippe Spangliero.
C'est pas très fair
de ta part, c'est pas très juste. On va se pencher évidemment, messieurs, durant toute cette émission sur la composition de l'équipe de France que doit annoncer demain Marc Lièvremont, une composition attendue. On va tâcher évidemment, c'est la coutume comme à chaque veille d'annonce de liste, de présenter notre propre liste et de la comparer évidemment la semaine prochaine à celle qu'aura annoncée demain Marc Lièvremont. On va commencer, Philippe Spangliero, par les grandes lignes. Est-ce que Marc Lièvremont peut nous proposer demain des surprises? Doit nous proposer des surprises?
Est-ce qu'il doit? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il le fera? J'en suis moins sûr. Voilà, moi, il y a des joueurs que je trouve très intéressants depuis le début de la saison, voire même les saisons précédentes, et qui ont été suivis par la filière fédérale, notamment avec les sélections en France. Je pense notamment au pilier Yannick Forestier de Castres, que j'aimerais voir dans les 30 parce que je pense qu'il mérite sa place dans ce groupe. Le jeune Raphaël Lacafia, on en a parlé souvent, c'est peut-être un peu prématuré, mais Louis Picamol n'a pas non plus fait les performances avec le Stade Toulousain qui lui permettent de prétendre plus que le jeune Lacafia a une place dans le groupe. Voilà, moi, et puis personnellement, à l'aile, j'aimerais bien revoir quelqu'un comme Julien Malzieu. Et je pense que le fait que la liste sorte aussitôt et qu'un joueur comme ça ait pas le temps de s'exprimer en barrage et éventuellement en demi-finale va lui être fatal. Mais bon, voilà. Donc, est-ce que j'aimerais voir des surprises? Oui. Est-ce qu'il y en aura? J'y crois moins. Voilà.
Pierre Salviat, t'en as connu quelques-unes, toi, bah, des listes hein, pour la Coupe du Monde. Il y a des surprises, généralement.
Oui, il y a toujours un ou deux qui est la surprise du chef. Mais je crois savoir que c'est une liste de 33 hein, qui va être formée, non pas 30.
C'est fort probable, ouais. Parce à cause que, des blessures,
oui,
des nombreuses
y a des
incertitudes,
etc. Donc,
notamment
c'est déjà 33, autrement dit, on peut oser faire des pronostics quand il y a une liste de 33. Après, on verra. Moi, personnellement, je vais vous dire, si Picamol n'y est pas, c'est pas normal. Si Chabalier, c'est pas normal. Si Josion n'y est pas, ça me choque pas. Si Fritz n'y est pas, c'est pas normal.
Bon, donc a priori, Fritz n'y sera pas, ce sera pas normal. Josion y sera, ce sera normal.
Et si Bastaro y est pas, ça m'étonnera pas.
Eh ben dites donc, on va établir cette liste avec Philippe.
Il y aura peut-être la surprise Clément Poitrono au centre aussi.
Au centre,
ouais, mais enfin, ça me choquerait pas du tout.
Il n'y aura pas la surprise Clément Poitrono, ça c'est une certitude qu'il fera partie des 30 ou 33 appelés par Marc Lièvremont. Après, effectivement, le poste sur lequel Marc Lièvremont donnera sa confiance à Clément Poitrono est peut-être encore en discussion. C'est vrai que ça fait partie des possibilités. On va commencer, tiens, par exemple, par le poste d'arrière. Au lieu de faire de 1 à 15, on va faire de 15 à 1.
Ah, bah tiens, ça va changer.
Et ça va changer, effectivement. On est pour l'originalité dans Carrément Rugby. Ouais. Au poste d'arrière, justement, Philippe Spandiro, pas trop de doutes. Maxime Médard, Clément Poitrono, Damien Traille.
Non.
Damien Traille, je sais pas.
Pourquoi donc?
Je sais pas. Damien Traille sera, c'est une certitude. À l'arrière, j'en suis moins sûr. Peut-être que la blessure de Rougerie et son forfait pour la Coupe du Monde font qu'on va remettre Traille au centre. Ils sont quand même plutôt dans le même profil. Donc, Je pense pas voir Traille à l'arrière. Peut-être que comme Marc est vraiment aime bien les joueurs polyvalents et liés arrière, il y aura dans la liste un Palisson qui est capable de couvrir les deux avec Clément Poitrono et Maxime Médard.
Palisson plus que Jérôme Porricale en troisième
oui.
choix à l'arrière.
Oui.
Pierre Salviat.
Ben moi je vote pour quelqu'un qui n'y sera pas, mais ça sera une erreur. Je vote pour Telet
pour
à l'arrière.
Telet, par exemple.
Oui, je vote pour Telet. Mais j'ai des justifications, même si ça fait rire
Philippe
Spanguero, ou si ça fait tomber son casque. C'est que d'abord, Telet peut jouer arrière, il peut jouer ouvreur, il peut même jouer demi de mêlée, mais c'est surtout parce qu'il représente à lui tout seul plus de 50% des points de Castres et que c'est le meilleur buteur de tous les temps. Et je ne connais pas depuis 87 une équipe capable de gagner la Coupe du Monde sans un buteur de ce niveau. C'est tellement vrai que l'Angleterre va peut-être pas mettre Wilkinson comme choix numéro 1 à l'ouverture, mais prendra quand même Wilkinson.
Justement, bonne question posée par Pierre, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, mon bon Pierre. Philippe, est-ce que la liste de Marc Lièvremont doit être la liste d'une philosophie, c'est-à-dire une philosophie de jeu au large, par exemple, ou une philosophie de jeu pragmatique avec des joueurs capables d'enquiller au pied, de jouer très haut, de jouer restrictif pour essayer de gagner comme ça?
Ben moi, la question que je me pose, c'est qu'on a quand même un manque de banc et d'effectifs à des postes clés. Donc, est-ce que Marc Lièvremont a le luxe de se dire, voilà, je vais choisir des joueurs en fonction d'un schéma de jeu? J'en suis pas persuadé, quoi. Il y a des postes, notamment en première ligne, au talonnage ou au centre, notamment, où il n'y a pas non plus pléiade de joueurs susceptibles de postuler et qui ont prouvé qu'ils avaient le niveau pour rivaliser sur une compétition comme la Coupe du Monde. Donc voilà, pour répondre à ta question, moi je suis pas sûr que Marc Lièvremont réfléchisse comme ça. Voilà.
Mais alors, par exemple, le cas soulevé là par Pierre, c'est Romain Telet. Évidemment, il ne va pas y être, ou alors ce serait la surprise du chef.
Ce serait une connerie s'il n'y est pas.
C'est vrai qu'il fait une énorme saison, c'est vrai qu'il est particulièrement
pas
régulier.
Pas une énorme
au pied.
Saison. Ça fait 10 ans qu'il est le meilleur buteur français. Faut arrêter.
Même Johnny Wilkinson lui a rendu cette saison hommage. Romain Telet, par exemple, ce serait une hérésie de ne pas le voir en équipe de France pour ce type d'événement particulier où on sait qu'il faut marquer, qu'il faut être efficace sur cet temps fort, qu'il faut sanctionner l'adversaire au pied. Philippe?
Ben, ce serait pas du tout une hérésie de pas le voir, pour la bonne et simple raison, c'est que on l'a jamais testé en équipe de France sur des événements avec beaucoup moins de pression. Et pour le coup, là, pour moi, ce serait une erreur de le prendre pour un événement tel que celui-là.
Philippe,
même si, oui.
T'as de la mémoire? Tu te rappelles d'un certain Castagnette qui jouait à Clermont et qui a été sélectionné au dernier moment pour la Coupe du Monde 99?
Très bien.
Bon, donc il y a des précédents, on est d'accord.
Oui, mais aujourd'hui, alors, est-ce que c'est une erreur ou pas de réfléchir comme ça, je sais pas. Mais aujourd'hui, il y a des critères beaucoup plus qu'à la mêlée ou à l'arrière. On voit que il faut être sûr sous les ballons hauts, même si Telé est là, mais il n'a pas apporté les garanties physiques aussi à un moment donné pour pouvoir postuler. Donc c'est quand même un poste différent à l'arrière, hein, où on a besoin de beaucoup plus de certitude. C'est le dernier rempart de la défense, c'est un joueur important sous les ballons
hauts. Philippe.
Donc voilà.
Philippe.
Oui.
Alors je vais encore rafraîchir ta mémoire. Tu te rappelles de Serge Blanco?
Ça me dit quelque
chose. Tu sais pourquoi Jacques Fourou sélectionnait Béraud, qui n'avait pas non plus, qui n'avait pas davantage sa place en équipe de France que Telé, par exemple, aujourd'hui? Pourquoi Jacques Fourou sélectionnait Béraud à l'aile? Pour
non.
doubler Blanco, qui n'était pas sûr sur les chandelles. Donc il y a des artifices. Il y a des artifices possibles. Est-ce que le plus important, et j'en reviens au centre du débat, est-ce que le plus important dans un tournoi comme la Coupe du Monde, c'est d'abord de sélectionner un joueur qui est capable d'enquiller à 85%?
Ça, c'est une vraie bonne question, je trouve, parce que aujourd'hui, quel buteur peut nous apporter la garantie de 85% de réussite sur un tournoi aussi important qu'une Coupe du Monde? On va te donner, a priori,
mais par
les
exemple,
clés du camion à Morgan
Parra, s'il est titulaire ou Yachvili, ont déjà apporté ses garanties en équipe de France. Ils sont moins réguliers que Telé, mais ils ont déjà apporté ses garanties à l'équipe de France.
Alors c'est vrai qu'a priori, Romain Telé, c'est un faux débat, parce qu'on sait pertinemment qu'il ne sera pas là.
Attends.
Non ?
Attends, il casse qualifié là ?
Non, mais il se régale, Pierre, mais il sait pertinemment qu'il ne sera pas.
Oui, et bien casse qualifié, on est d'accord ?
Oui.
Bon, Castres peut être champion de France, on est d'accord?
Oui,
c'est possible, tant que nous avons été qualifiés.
Oui.
Bon, donc Telé peut être aussi le héros de la qualification de Castres, on est d'accord?
Oui.
J'ai déjà vu au dernier moment...
En sachant que la liste va sortir avant tout ça.
Oui, mais la liste peut sortir avec Chabal qui sera sanctionné le lendemain. Hein. Donc les listes, ça sont faites pour être revues. Hein.
Et puis on rappelle que la liste officielle, ce sera fin août, donc a priori...
Voilà, il y a les listes cachées, tu sais très bien. Donc moi j'ai déjà vu au tout dernier moment, je me souviens par exemple d'un Charvet Royal au Bar et Royal au Parc, un jour en finale du championnat de France, pris par Fourou qui ne le voulait jamais au dernier moment. Hein.
Quelques minutes messieurs, en compagnie de Renaud Bourrel qui nous rejoint aujourd'hui dans
Carrément
Rugby.
Alors si Salut, Bourrel est là, on est sauvés.
Ça les copains.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ouais, j'imagine que pour toi c'est un petit peu la grosse pression évidemment pour l'ensemble du quotidien L'Équipe. Demain, annonce de Marc Olivier Remond et on va sans doute demander à Renaud Bourrel quelles sont les dernières informations évidemment publiées demain dans le quotidien L'Équipe. C'est évidemment le travail de la journée de Renaud. Pour l'instant, Renaud, on se penchait sur le cas Romain Telé et on parlait plus généralement des surprises attendues. Est-ce qu'on peut attendre des surprises?
Je sais pas qui, ce que je débarque, je sais pas qui a avancé le nom de Romain Telé, j'ai une petite idée.
Voilà.
Mais là, en revanche, bon, qu'est-ce qu'il a parié d'ailleurs?
Bah, il a parié pas grand-chose. Perruque.
Voilà, d'accord.
Non, j'ai dit qu'il serait pas dans la liste et que c'est une connerie, c'est ça ce que j'ai dit.
D'accord.
Non, tu dis pas du tout qu'il sera pas dans la liste. Tu dis qu'il peut être dans la liste, qu'on a déjà eu des surprises et que.
J'ai dit qu'il sera pas dans la liste de demain. J'ai dit qu'il sera pas dans la liste de demain. Ça serait pas une surprise qu'il soit dans la liste au dernier moment, oui.
Renaud, est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises demain?
Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises? Je pense qu'effectivement, on peut s'attendre à des joueurs à zéro sélection, c'est-à-dire des individualités que Marc Evremond aurait souhaité voir, qu'il a pas eu l'occasion pour cause de blessure.
Jonathan Wisniewski.
C'est des noms sans certitude, mais je pense à Adrien Planté ou même à Jonathan Wisniewski.
Raphaël Lapapierre.
À des postes où il n'a pas réussi à dégager de certitude ces deux dernières saisons. Faut savoir que Marc Evremond bâtit une liste au terme d'une saison catastrophique pour le 15 de France et pour même l'histoire de l'équipe de France, hein, puisqu'on a quand même concédé des revers historiques, que ce soit en Argentine, en Afrique du Sud ou contre l'Australie à la maison, plus la défaite en Italie lors du tournoi. Donc bon, Marc Evremond, il a l'habitude quand même de digérer, d'être très très dur à chaud, très amer, mais de digérer ses défaites en suivant. Donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, il pourrait être tenté d'avancer des surprises.
Donc Planté est une bonne surprise.
Comme tous ses prédécesseurs l'ont fait d'ailleurs. Hein.
Bah exactement. Et Planté.
En première ligne d'ailleurs, il aura peut-être pas forcément le choix. Hein.
Oui, mais
Barcella est encore convalescent. Domingo aussi. On n'est pas sûr que Thomas, malheureusement, soit en pleine possession de ses moyens.
On est même sûr qu'il n'y sera pas. Pour moi, c'est pas la peine de discuter de la possible participation de Thomas Domingo à la Coupe du Monde.
Bruno Bourrel.
L'histoire te donne raison, Philippe. Après, je connais pas la politique. Apparemment, quand même, il serait enclin à ouvrir la liste aux joueurs blessés qu'ils espèrent voir revenir à temps. Donc bon, ça on verra. Mais enfin, ça c'est de la tambouille interne. Mais pour ce qui est des surprises, effectivement, étant donné la saison écoulée, étant donné l'état des stocks, il pourrait être tenté de laisser entrer deux surprises.
Ça veut dire qu'il pourrait y avoir
la liste sur laquelle il travaille, c'est une liste de 42 noms.
Ah oui.
C'est une liste de 42 noms, c'est donc sur 33, c'est assez large quand même.
Ouais.
Et que dans cette liste figure Florian Fritz, figure Mathieu Bastaro, figure Sébastien Chabal dont on parle beaucoup effectivement. Donc tout est très ouvert et finalement quand on bosse sur une liste de 42 noms, on remarque qu'il y a peu de joueurs que Marc Lévremont a utilisé qui sont éliminés. Je parle qu'il a utilisé ces deux dernières saisons.
Le joueur à zéro sélection qui me semble être la surprise la plus crédible, a priori comme ça, pour moi c'est Adrien Planté.
Qui a surnagé avec Perpignan
contre
Northampton.
Non, parce que je pense que c'est un élément nouveau et qui me convainc à chacune de ses sorties.
Ça veut dire, Renaud Bourrel, qu'il y aurait une prime à la forme de fin de saison chez les joueurs du championnat notamment.
Il y a toujours eu. Hein.
Il y a toujours eu, effectivement. Hein. Souvenez-vous de Brian Liebenberg en 2003, qui n'est même pas titulaire en finale et en demi-finale avec le Stade français, mais qui est absolument époustouflant à chaque fois qu'il rentre et qui gagne sa sélection comme ça.
Et Stéphane Castagnette, que j'ai cité tout à l'heure, par exemple.
Comment ?
Stéphane Castagnette, que j'ai cité tout à l'heure en 99.
Voilà. Et il y a donc une prime à la forme de fin de saison. C'est vrai. Et puis, alors par contre, moi, sur quoi j'ai mis un peu de réserve quand même, c'est une confiance aveugle dans les deux mois de préparation. Dans les deux mois de préparation ensemble, quoi, parce que ça veut dire que ces joueurs à zéro sélection ou qui ont très peu mis les pieds, même en France 1, je crois pas que Adrien Planté ait fait beaucoup de matchs en France 1, je me souviens pas. Mais enfin, ça veut dire qu'on a une confiance aveugle dans les deux mois de préparation pour un joueur qui a jamais mis les pieds dans le groupe France. C'est une belle preuve de confiance en soi. Mais enfin bon, c'est un peu léger quand même.
S'il y a des surprises et s'il y en a par exemple avec des joueurs qui ont zéro sélection, Philippe Sanglero, est-ce que ça veut dire que Marc Lévremont part du constat qu'on va débuter la préparation de la Coupe du Monde au niveau zéro sans tenir compte de tout ce qui s'est passé avant, ce qui s'est bien passé il y a deux saisons, ce qui s'est très mal passé cette saison?
Ben,
et donc accepter le fait qu'on ait du retard, quoi.
Comment ?
Accepter donc le fait qu'on ait du retard sur toutes les autres nations.
Ah non, mais ça c'est une évidence, comme l'a dit Renaud, on a montré par les prestations qu'on a présentées sur le terrain qu'on avait pris du retard et surtout qu'on n'avait aucune certitude par rapport à un groupe qui devait se dégager depuis quelques temps déjà. Je compare souvent l'équipe de France aux Anglais. Les Anglais sont repartis de zéro après la Coupe du Monde précédente. Ils ont passé deux ans la tête sous l'eau, mais en donnant la chance à un groupe qui s'est construit, qui a appris à se connaître et qui aujourd'hui a montré qu'il était capable de belles choses. Donc c'est sûr et certain que l'équipe de France a du retard sur beaucoup, beaucoup de nations avec lesquelles elle sera en concurrence par rapport aux certitudes qu'elle devrait avoir et qu'elle n'a pas aujourd'hui. Donc oui, après moi je suis assez confiant parce que je pense que des joueurs, s'ils ont réellement le potentiel de figurer en équipe de France, peuvent en deux mois se connaître et construire quelque chose. Voilà. Mais c'est sûr que on part avec du retard et avec des pénalités par rapport à des concurrents directs comme l'Angleterre notamment.
Pierre Salviac.
Oui, j'ai tendance à remarquer que dans les tournois, la différence se fait sur la faute de l'adversaire et sur la capacité du buteur à enquiller. Ça se joue souvent en fin de match. Encore une fois, je maintiens que, compte tenu de la faiblesse générale de l'effectif français, mais d'autres effectifs aussi, c'est encore le buteur, à mon avis, qui va être le héros de cette Coupe du Monde.
Et pour que le buteur soit le héros, il faut être capable de mettre ses adversaires à la faute. On a vu que l'équipe de France avait fait l'effort pendant de longues saisons et de longs mois sur la mêlée où elle était conquérante. On a vu sur la fin du tournoi qu'elle l'était un peu moins. Avec l'absence de Domingo, est-ce qu'elle va être capable d'être aussi performante en mêlée, de donner l'opportunité à un buteur de... C'est toujours pareil. Est-ce que la France devant, parce que c'était quand même sa grosse force, elle perd un élément important avec Domingo en mêlée, est-ce qu'elle va être capable de mettre ses adversaires à la faute pour offrir des opportunités à un buteur.
Justement, sans trahir
Renaud Bourrel. Qu'est-ce qui va faire la différence à cette Coupe du Monde ? Ce sera comme toutes les Coupes du Monde. Je parle du point de vue de l'équipe de France. Ça va être l'état physique et physiologique de nos joueurs. La chance qu'on a, c'est que les nations du Sud auront joué le tri-nation peu de temps avant. La malchance qu'on a, c'est les calendriers infernales, les saisons interminables. Et là, 2 mois de saison vont permettre de se régénérer, mais absolument pas d'acquérir les bases de vitesse, de dynamisme, de punch qu'on peut voir. Il y a quelques jours, par curiosité, je suis allé voir des vidéos de Quade Cooper ou alors d'Ashley Cooper, les Australiens. Ouais. Ils ont des appuis. Je suis désolé. Et encore une fois, on a des très bons joueurs en championnat de France, mais ils ont des qualités physiques, athlétiques qu'on ne trouve pas chez nous parce qu'on n'a pas le temps de les travailler, parce qu'on est trop fatigué. Et ça, en 2 mois de préparation, ça ne se gomme pas. Donc on sera sans doute capable de réaliser un exploit comme à chaque Coupe du Monde. Et puis le match suivant, si on n'a pas le cran de faire un coaching monstrueux ou si on considère qu'on n'a pas sur le banc de quoi garder une équipe de France performante après l'exploit évoqué, eh ben on se plantera malheureusement.
C'est pas con ce qu'il dit Bourrel. Vous ferez bien de le lire demain dans l'équipe parce que là je sens qu'il y a du lourd qui arrive.
Bah pour une fois que t'es gentil avec lui, dis donc. Qu'est-ce qui se passe mon
chapeau Bourrel.
Des carottes petit déj. C'est bien ça.
Non, c'est bien. Non, mais quand il dit des choses intelligentes, je le souligne.
Ça me fait plaisir de voir qu'après une nouvelle saison de Carrément Rugby, tu finis par adoucir un peu la.
Non, mais j'écoute. J'écoute les arguments des uns et des autres. Moi, j'ai pas d'a priori.
On parlait, Renaud, rapidement des piliers. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le choix ou sur ce vers quoi va tendre Marc Liavremont en première ligne avec ce qu'on appelle encore des incertitudes, mais qui sont malheureusement des quasi-certitudes de forfait de Fabien Barcella et Thomas Domingo.
On est passé de l'arrière au pilier.
Ce qui est vrai, c'est que, par exemple, les entraîneurs de casse, mais enfin, c'est une surprise pour personne, font évidemment beaucoup de lobbying pour leurs joueurs, et notamment Yannick Forestier. Nous, les envoyés spéciaux de l'équipe qui suivent Castres au plus près, me disent que du bien de ce joueur, qui a eu plusieurs occasions d'arriver en équipe de France, puis ça s'est toujours, ça ne s'est jamais concrétisé en équipe de France. Je me souviens aussi qu'en novembre dernier, et puis lors du tournoi, à Toulouse, on s'était ému que Jean-Baptiste Poux, qui est polyvalent, et ça peut peser.
Bien sûr, ça peut peser
parce que Marc Liavremont aime la polyvalence.
C'est utile en tournoi.
Exactement, il peut faire un musée des dotations Coupe du Monde, Jean-Baptiste Poux, s'il fait celle-là. plus sérieusement, voilà, je pense que ces deux joueurs sont en concurrence, sachant que Ducalcon partira. Et je pense que Sylvain Marconnet partira aussi.
Ah, pour moi, il n'y a pas photo entre Forestier et Ducalcon, je vote Forestier. Hein.
On est rassuré sur l'état de l'épaule de Sylvain Marconnet.
Oui, c'est bien. Mais l'autre, je ne suis pas convaincu qu'il ait le niveau international.
On est rassuré, Renaud, sur l'état de l'épaule de Sylvain Marconnet.
Pour le moment, en tout cas, moi, je ne serais pas alarmiste. Hein, mais
Pas d'inquiétude particulière. C'est vrai que ça ferait du bien d'avoir un peu d'expérience quand même dans cette première ligne française. On va revenir à ce qu'on faisait à la base, c'est-à-dire tenter d'établir une liste. On a parlé des arrières, Médard, Poitrono, Palisson comme vague consensus dans ce Carrément Rugby. Ozel, messieurs, il y a quelques certitudes. Maxime Médard qui peut évidemment servir d'ailier, d'ailier titulaire même. On peut retrouver Vincent Clerc également dans cette liste. Derrière,
C'est même sûr, Vincent Clerc.
Oui, c'est même sûr, Vincent Clerc. En revanche, derrière, il y a des incertitudes. Johan Huget, a priori, qui faisait partie des petits papiers de Marc-Olivier Vraiment.
Johan Huget, il sera. Ou alors, s'il n'y est pas... Alors, après, c'est pas un avis sur le niveau prétendu ou pas du joueur en équipe de France. S'il n'y est pas, c'est un pur scandale parce qu'il a été aligné toute la saison en équipe de France. En plus, il fait une bonne fin de saison avec Bayonne, une très bonne fin de saison avec Bayonne.
Il a encore marqué un doublé face à La Rochelle.
C'est à n'y rien comprendre. Alors, Cédric Emmons, moi, j'entends partout, effectivement, qu'il revient dans les petits papiers. Moi, je pense aussi que Cédric Emmons, il fait une bonne fin de saison parce qu'il fallait qu'il se trouve un dernier contrat. C'est peut-être un peu sévère, mais il a peu joué cette saison.
Tant mieux.
il est plus tout jeune. Oui, tant mieux, mais après, on parle de Coupe du Monde. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Cédric Clément en équipe de France?
Oui, mais il me semble que sur ces sorties de l'équipe de France, c'est convaincant quand même.
Oui, d'accord, mais Cédric Clément va faire une Coupe du Monde au même âge que Christophe Dominici a fait la dernière. Et, oui. Vous voyez où est-ce que je veux dire? Oui. À un certain âge, à ces postes-là, c'est plus embêtant.
Philippe Spanguero, sur le cas Cédric Clément.
Mais sur le cas Cédric Clément, c'est vrai qu'il a surpris énormément de monde. Moi, le premier, j'ai suivi quand même attentivement tout cette saison. Je pensais pas le voir revenir à un niveau au niveau qu'il a aujourd'hui. Après, c'est aussi parce qu'on l'a repositionné à l'arrière du fait du repositionnement de Clément Poitrenaud au centre, qu'on voyait quand même beaucoup Cédric Clément à l'aile, qu'il avait moins de possibilités de s'exprimer à l'aile que celle qu'il a à l'arrière aujourd'hui. Donc voilà, la question, c'est est-ce que Cédric Clément, si jamais il en est question en équipe de France, ce serait pour jouer à l'aile ou à l'arrière. Je pense qu'il est qu'il a trouvé ses marques à l'arrière et que sa sélection en équipe de France ne fait débat qu'au sujet du poste d'arrière.
Ça fait quand même 4 joueurs polyvalents arrière: Médard, Poitrenaud, Palisson et désormais Cédric Clément dans votre liste. Il sera.
De toute façon, marquer vraiment peu de spécialistes de l'aile. De toute façon.
Donc a priori, ça condamne Julien Malzieu.
Et planté.
Je pense que ça condamne malheureusement Julien Malzieu.
Il y aura que 2 spécialistes. Je pense qu'il y aura que 2 spécialistes.
Philippe Sanduro.
Et Johan Hugé, je pense.
Philippe Sanduro, confirmation.
Je suis d'accord avec Renaud.
Donc a priori, Cédric Clément et Adrien Planté condamnés donc.
Non, Julien Malzieu sûr. Malheureusement, parce que je trouve que c'est un joueur intéressant qui ressemble un peu à Johan Hugé dans le profil et qui a amené peut-être un peu plus de garantie et d'expérience en équipe de France. Et puis Adrien Planté qui fait de très belles saisons, qui malheureusement est quand même très souvent blessé et qui n'a pas pu s'exprimer comme il aurait dû ces dernières saisons. Et à mon avis, voilà, Adrien Planté va faire les frais de son manque d'expérience au niveau international.
Allez, 2 petites minutes, messieurs, pour parler des centres. Évidemment, on pourrait en parler pendant une heure, mais la grosse interrogation, Renaud Bourrel, Philippe Spanguero, Pierre Salviac, c'est évidemment le cas Yannick Jozion. On pense tous qu'il y sera dans cette liste au nom de son expérience. En revanche, la vraie question pour Yannick Jozion sera la place de titulaire ou pas. Philippe.
Mais titulaire, je crois pas pour lui parce que il a perdu beaucoup de points durant ce tournoi. Il a pas amené les garanties en fin de saison avec le Stade Toulousain. On le sent quand même un peu moins bien qu'il y a quelques temps. La preuve, c'est que sur les matchs couperés là avec le Stade Toulousain ces dernières semaines, il a pas été aligné d'entrée sur l'équipe titulaire, donc c'est quand même aussi un signe. Donc malheureusement, enfin je pense pour lui qu'il fait pas du tout partie des plans du 15 type pour Marc Lévremont.
Renaud Bourrel.
Le problème de Yannick Jozion, c'est qu'est-ce qu'il a apporté dans le vestiaire en termes d'impact psychologique par rapport à son expérience, mais également sur le terrain. Et c'est là-dessus que Marc Lévremont est le plus déçu sur l'apport de Yannick Jozion. Il n'est pas le seul d'ailleurs, mais à ce niveau-là, Aurélien Rougerie, qui n'a pourtant pas une énorme expérience du poste de centre, qui n'était pas non plus parmi les favoris de Marc Lévremont avant cette dernière saison, lui a apporté plus de garanties. Alors Aurélien Rougerie s'est blessé, c'est peut-être une chance, selon moi, parce que pour moi, la présence de Yannick Jozion dans les 30 n'était pas évidente. Et où il avait de la chance, Yannick Jozion, c'est que Mathieu Bastaro, vous savez ce qu'il en est de son cas, et que Maxime Mermoz, malheureusement, s'est souvent blessé et s'est jamais vraiment imposé en équipe de France, même si le potentiel, il est là. Donc, toute l'interrogation de Marc Lévremont, et je pense que c'est un deal qu'il devra faire avec, j'ai pas de conseils à lui donner, mais qu'il pourrait faire avec Yannick Jozion, c'est ok Yannick, on t'emmène, mais ton rôle c'est d'être le papa de la classe, et il faut que tu sortes de ta réserve naturelle, et que tu imprimes quelque chose en plus d'âme, mais aussi de réflexion dans l'équipe de France, parce que c'est de ça dont on a manqué quand tu étais sur le terrain au moment où ça allait le plus mal. C'est là-dessus, je crois, que Marc Lévremont a été le plus déçu vis-à-vis de Yannick Jozion. Son expérience, son palmarès, son nombre de sélections et sa contribution dans l'équipe qui n'a aucune mesure par rapport à ça.
Pierre Salviac, rapidement, toi qui t'opposais à la présence de Yannick Jozion dans cette liste.
Jozion, c'est un has-been. Moi, je trouverais anormal que Fritz n'y soit pas, mais il ne sera pas parce qu'il y a incompatibilité d'humeur, d'après ce qu'on m'a dit, avec Tamac. Alors voilà.
Ah, il y a plus d'incompatibilité d'humeur avec Ntamack,
visiblement. Ouais, mais c'est dommage.
Il y a friture sur les lignes, comme on dit. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette première demi-heure de Carrément Rugby. On va laisser Renaud Bourrel tranquillement travailler à son papier. Demain,
parce qu'il
les
souffle,
informations.
T'as vu, il souffle dans, dans l'iPhone.
Il souffle de plaisir de t'entendre, Pierre Salviati.
Non. Je sens qu'il est, il souffre pour écrire le papier qui va être formidable demain dans l'équipe que je vous conseille de lire.
Allez, le papier de Renaud Bourrel, merci, demain dans l'équipe. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Et au bon plaisir de te lire, évidemment, demain dans les colonnes du quotidien L'Équipe.
Sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Rugby jusqu'à 12h30. RTL L'Équipe, Carrément Rugby.
Carrément Rugby, deuxième demi-heure. C'est un plaisir de vous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant pour suivre cette deuxième demi-heure de débat consacré à l'ensemble de l'actualité de l'Ovalie. Une actualité particulièrement chargée, vous vous en doutez, en cette fin d'année, en cette fin de saison. Il y a bien sûr les matchs couperets dans la saison de Top 14, les barrages qui arrivent, les demi-finales également, la finale au Stade de France. Tout cela, on va en parler d'ici quelques minutes, mais pour l'instant on continue de se pencher sur la liste des 30, 32, 33, 42, on ne sait plus, que doit annoncer demain Marc Lièvremont, le sélectionneur de l'équipe de France. On en parle pendant encore une demi-heure avec l'ensemble des débatteurs de Carrément Rugby.
RTL L'Équipe, Carrément Rugby.
Carrément Rugby, dont vous pouvez retrouver la rediffusion, vous le savez, hein, tous les mardis de 15h30 à 16h30. Carrément Rugby, que vous retrouvez également en podcast sur le www.rtl-l'équipe.fr, sur le site internet de RTL et celui de l'équipe, également l'onglet rugby, mais aussi et surtout, et on ne le répétera jamais assez, sur le www.rugbyconnection.com de Ludovic Ninet, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants au téléphone. Nous, on continue de parler de la liste de Marc Lièvremont, annoncée demain donc. Pierre Salviat, toujours dans ses petits outils technologiques. Philippe Spangiro,
je regarde mon compte Twitter, j'ai le droit, non ?
Mon compte Twitter, dit-il, depuis 6 mois, là, c'est la nouvelle lubie de Pierre Salvia. Ça marche bien ou pas d'ailleurs ?
Ah ben, aujourd'hui, je vais franchir la bande des 2000 abonnés en 2 mois, ça va.
2000 abonnés en 2 mois, mais c'est depuis que tu as sorti ce fameux scoop sur le mariage.
Entre
le...
autres.
Mariage de Thierry Roland et de Jean-Michel Larqué.
Mais je vais vous en sortir là dans les jours qui viennent.
Ah, des petites infos. À venir. Pas d'infos sur les listes des 30 de Marc
Lièvremont. Si, je sais.
Si, on connaît la liste déjà ? On va l'annoncer demain sur Twitter. Voilà. T'es pas ami avec Sébastien Chabal sur Twitter ?
Ah non, moi j'ai voulu être ami avec lui, mais il a pas voulu s'abonner à moi.
Étonnamment.
C'est con, quoi.
T'as honte de rien quand même à le demander comme ami. Hein.
Ah bah oui, moi
c'est
j'adore.
Très, très bizarre.
J'adore Seb.
Très très bizarre. Bon messieurs, on continue de développer la liste des 30 avant de se pencher sur le championnat quand même, parce que ça a été l'actualité du week-end et ça a été une actualité passionnante évidemment. La liste des 30, on en parlait, on était sur les centres aux côtés de Yannick Jozion, que l'on imagine donc dans la liste. C'est vrai que c'est un petit peu flou, Philippe Spangliero, avec notamment la blessure d'Aurélien Rougerie.
Ben oui, c'est le flou, comme je le disais, c'est un poste déjà où on avait peu de certitudes. Et puis ça complique encore la tâche de Marc Lièvremont, en sachant que Mermoz voilà était blessé pas mal cette année, qu'il a pas forcément donné des garanties nécessaires. Donc il y a Fritz bien sûr qui est titulaire au Stade Toulousain, qui fait de très bons matchs en ce moment, mais qui pâtit des relations un peu conflictuelles qu'il a avec certains membres du staff. Donc c'est vraiment un poste où on n'est pas fourni. On va peut-être revoir David Marty, qui a été rappelé pendant le tournoi et
qui a été quand même qui reste sur quelques récentes prestations assez moyennes, David Marty, et notamment en demi-finale de Coupe d'Europe.
Eh oui, mais bon, malheureusement,
on n'a pas
vraiment de solution, avec peut-être Estebanes, bon, qu'on n'a pas beaucoup vu en équipe de France, mais bon, qui serait peut-être une solution, qui a été essayée quand même régulièrement sur les derniers matchs.
Il n'y a pas de possible surprise. On pensait par exemple, l'autre jour j'étais à Charletti pour le match entre le Stade Français et le Racing, Henri Chavancy, tout ça, ça ne peut pas être des surprises de Marc Lièvremont, c'est encore un peu juste, un peu tendre.
Ouais, je crois pas Henri Chavancy, non.
Non. Pierre Salviac, les centres, qui émergent qui...
Encore une fois, l'intérêt supérieur de l'équipe de France commande la sélection de Fritz. Alors, ce serait bien que, au moins pour la durée du tournoi mondial, je ne demande pas de passer leurs vacances ensemble, mais Fritz et Ntamack fassent la paix.
Dans le cadre de la gestion d'un groupe, Florian Fritz, c'est son gros caractère, Philippe Spangliero, est-ce que ce n'est pas une problématique que souhaite éviter Marc Lièvremont ?
Ben, je crois qu'il n'y a jamais eu de souci entre Florian Fritz et des partenaires. Il a eu des relations conflictuelles parce que peut-être qu'il a un peu de mal avec l'autorité. Et encore, au Stade Toulousain, il n'y a jamais de problème entre lui et le staff. Mais je crois pas que ce soit un problème au niveau de la vie de groupe, en tous les cas.
Florian Fritz, qui ne fait pas partie, on le sait, des plans de Marc Le Lévremont, on a du mal à dessiner ce centre du terrain, évidemment. Et ce sera sans doute l'un des enjeux, l'une des réponses les plus attendues de la liste demain de Marc Le Lievremont. On va se pencher sur la charnière, messieurs. La charnière, on connaît déjà plus ou moins le poste de demi-mêlée qui sera couvert à la fois par Morgan Parra et par Dimitri Yachvili. Il y a des incertitudes, donc sur le poste de 10. Derrière François Trinduc, on attend le vrai numéro 2, le deuxième choix de cette équipe de France. Ça peut être Damien Traille pour compenser, mais il y aura sans doute un vrai numéro 10 appelé derrière François Trinduc, Philippe.
Oui, il y aura un vrai numéro 10 appelé, donc Damien Traille, je ne sais pas, les essais qu'on a fait avec lui au poste de demi-ouverture n'ont pas été très concluants non plus. Moi, je vois bien la surprise de Jonathan Wisniewski aussi, peut-être, parce que, comme le disait Pierre, on a besoin de garanties au niveau du jeu au pied, puis c'est le meilleur réalisateur du top 14 à l'heure actuelle, il est dans les deux meilleurs. Et puis il a amené des garanties à ce niveau-là. Il joue au Métro, qui va jouer une demi-finale cette année, donc il va bénéficier aussi des bons résultats de son club. Donc c'est peut-être une des surprises de l'année.
Jonathan Wisniewski.
Bah, si on prend l'option Wisniewski, ça veut dire qu'on accepte l'idée que Lievremont peut faire une liste avec des joueurs à zéro sélection.
Mais on l'a dit depuis le début, on l'accepte, mais lesquels?
Oui, donc il peut aussi donc mettre planté, etc., etc. Le problème, c'est pourquoi pas Wisniewski, mais moi le problème, c'est surtout que la France aujourd'hui, à un certain niveau, donc au niveau de la Coupe du Monde, n'a pas un deuxième demi d'ouverture. C'est ça plutôt qui m'inquiète, moi.
Bah, Jonathan Wisniewski, il peut présenter des garanties.
Bah écoute, oui, mais les uns disent Wisniewski, les autres disent Krela, personne parle de Boxis, mais on peut penser que Traille peut faire l'affaire. Ça veut dire quand même quelque part qu'on n'a pas de numéro 2. Pour l'ennemi de mêlée, il n'y a pas de discussion.
La vraie question pour le numéro 2, est-ce que ça doit être un demi d'ouverture d'expérience qui est là pour chapeauter François Trinduc, comme pour aller, pourquoi pas, Damien Traille, pardon, ou est-ce qu'on doit faire l'appel au talent de Jonathan Wisniewski? Non, mais la question, en gros, c'est Strela ou Wisniewski, c'est l'expérience de Strela pour rentrer sur 20 minutes, ou c'est la foule de Jonathan Wisniewski et éventuellement sa précision dans le jeu au pied, Philippe?
C'est
un choix de jeu presque.
Ouais, c'est un choix de jeu. C'est vrai qu'après, il y a une variante qui est quand même importante. C'est au niveau international encore plus qu'au niveau national. Je l'ai souligné régulièrement. C'est cette zone du 10 qui est encore plus exposée au niveau international. Et on a reproché longtemps à Jonathan Wisniewski son manque de garantie en défense. Il a beaucoup progressé là-dessus. Mais malgré tout, au niveau de la densité physique, David Krela porte peut-être d'autres garanties. Est-ce qu'il a apporté des garanties au staff tricolore à ce niveau-là? Je ne sais pas.
Philippe, dans le top 14, dans les équipes du top 14, combien de joueurs non sélectionnables en 10? Est-ce que ce n'est pas ça le problème?
Ah non, mais ça, c'est un autre problème.
Ça expliquerait pourquoi on a de la peine ce matin à trouver un deuxième numéro 10.
Ah non, mais Titi, des vrais soucis, c'est une évidence. Mais en revanche,
faut le dire.
Quand on doit sélectionner, on sait qu'on n'a pas beaucoup de choix.
Donc merci les clubs du top 14.
Et on se pose la question de savoir si c'est Jonathan ou Wisniewski ou David Strela. La préférence de Carrément Rugby, la préférence de Philippe, rapidement, en un mot, Wisniewski ou Strela?
J'aurais beaucoup de mal à dire ça. Récompenser peut-être les deux bonnes saisons de Jonathan Wisniewski, mais en même temps, David Strela fait une belle fin de saison avec Toulouse. Il a fait des saisons très intéressantes aussi. Il a fait des gros matchs en équipe de France, donc franchement là je laisserai le soin au sélectionneur de se prononcer. Autant j'aime bien donner mon avis régulièrement, mais là c'est compliqué.
Sélectionneur Pierre Salviac.
Moi je choisis Traille parce qu'il peut jouer ouvreur, centre, arrière.
Oui, non, mais ça, Traille, il sera dans la liste.
Mais si tu le mets dans les ouvreurs.
Oui, mais il y aura de toute façon un deuxième ouvreur.
Tu te donnes une chance de plus de prendre un centre. Et moi, Pour ce qui me concerne, le rugby, ça commence d'abord au centre.
Bon, alors pas de centre en plus, mais Damien Traille déjà au poste de numéro 10. On l'aura compris, personnellement, petite sympathie pour Jonathan Wisniewski, qui a connu en plus à titre personnel une saison difficile, très difficile, et qui montre qu'il mérite...
Parce que c'est ça les critères
de
sélection?
Non, ce ne sont pas les critères, mais je te parle de mon plaisir, de ma satisfaction personnelle. Ce serait effectivement de voir Jonathan Wisniewski en équipe de France pour récompenser sa très très bonne saison. D'autant que ce ne serait pas juste
c'est pas une récompense la Coupe du Monde. Hein.
D'autant que ce ne serait pas juste une récompense, Pierre Salviage.
Ou alors, si on joue à ce jeu-là, moi je vais t'en sortir des récompenses.
Allez, les numéros 9, on n'en parle pas puisqu'il n'y a pas de débat. Le poste de numéro 8, voilà, parmi les quelques débats. Poste de numéro 8, Chabal, pas Chabal, la Cafia, pas la Cafia, Picamol, pas Picamol. On sait qu'en troisième ligne, on aura du Sautoir, Bonner, Arénor Doki. Voilà les certitudes.
Picamol en 8.
Picamol en 8 pour
Picamol en 8 et il me paraît incontournable. Il me paraît incontournable parce qu'il avance. Parce que il avance tout le temps. Il domine l'adversaire au contact, ne perd pas de ballon dans les zones d'affrontement. Il fait jouer autour de lui en restant debout et consomme deux ou trois adversaires pour l'arrêter. C'est pas moi qui le dis, parce que si je le dis, on va dire c'est des conneries. C'est Galtier dans son édito aujourd'hui dans l'équipe.
D'accord. Avis partagé par Philippe Spangliaro.
Oui, avis partagé. C'est sûr que, comme je le disais, il y a un joueur qui a explosé cette année que je trouve très intéressant, qui a aussi toutes les qualités évoquées au sujet de Louis Picamol. C'est Raphaël Lacafia que j'ai trouvé vraiment très 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 intéressant cette année, avec peut-être encore plus de dynamisme que Louis Picamol. Ce qu'on peut reprocher à Louis, peut-être sur contrairement au début de sa carrière, c'est que il franchit moins qu'au début de sa carrière. Il est peut-être moins agressif à l'impact que Raphaël Lacafia, qui a peut-être moins qui se pose peut-être moins de questions, mais c'est vrai que par rapport à l'expérience du haut niveau et du niveau international, je vois pas comment on pourrait se passer de Louis Picamol.
Ça veut dire qu'on va se passer de Fulgence Ouédraogo ou pas dans les 30?
Dans les 30, il y a des chances qu'on se passe de Fulgence Ouédraogo.
C'est quand même ahurissant.
Alors,
avec la saison
si c'est ça, est-ce que tu trouves que c'est vraiment normal? Parce que tu mets qui, tu dis, à la place de Fulgence?
À la place de Fulgence Ouédraogo, tu mets pas forcément le monde, mais tu sais que tu as une polyvalence entre des 6, des 7 et des 8 qui va peut-être condamner Fulgence Ouédraogo.
Parce que tu mets 3 talonneurs, c'est ça
de prendre, oui, et puis tu es obligé de prendre Arénor Doki, du Sautoir, Bonner.
Oui.
Oui. J'en oublie.
Oui, Picamol.
Picamol.
Oui.
Et il en reste 2, ouais.
Alors, c'est effectivement, si tu mets 3 talonneurs, tu peux considérer que Servat peut être un troisième ligne de dépannage.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans l'esprit du sélectionneur.
Non, mais il y a un moment donné, il faut prendre des options. Hein, ou tu mets 3 talonneurs et tu es obligé d'enlever un troisième ligne.
On va pas faire le débat là-dessus, messieurs, mais Chabal ou pas Chabal, 2 secondes.
Ah, pour ce qui me concerne, moi,
oui, je ne sais même pas pourquoi je pose la question.
Non, mais c'est pas ça, c'est que le Racing fait la démonstration qu'il n'a pas besoin de Chabal. Et de toute façon, moi, un joueur comme Chabal, qui est une icône des VIP et du rugby français, qui se permet de dire que tous les arbitres sont nuls, ne serait-ce que pour l'exemple, à partir du moment où il n'est pas indispensable sur le terrain, moi je ne le prends pas, mais je sais qu'il sera pris, parce que effectivement le carré VIP le demande.
À l'heure de constituer une liste, Philippe, est-ce que Sébastien Chabal et sa présence, peut-être pas sur 80 minutes, mais sur 10, 15, 20 minutes,
ça fait cher la minute,
même débat qu'en 2007 en fait, mais est-ce que c'est pas nécessaire, voire indispensable?
Non, je crois pas.
Ok.
Bah voilà, Philippe, il connaît le rugby, il vient de te mettre un carton rouge.
Si tout le monde est d'accord, moi je veux bien accepter de ne pas voir Sébastien Chabal. Je crois pas,
pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a cherché à justifier à tout prix la présence de Sébastien Chabal. Donc c'est vrai qu'à un moment, il a été un impact player intéressant. Mais depuis quelques mois, il montre pas, même en rentrant 20 minutes, qu'il est capable d'apporter un plus à l'équipe de France ou même au Metro Racing.
C'est curieux que les gens qui connaissent le rugby disent tout ça quand même.
La deuxième ligne, problème. Messieurs, est-ce qu'il y a des débats en deuxième ligne? Peut-être le retour de Romain Miloslouski ou de Pascal Papé aux côtés de Jérôme Thion, de Julien Pierre.
Pour moi, Pascal Papé est plus sur 10 que Jérôme Thion.
Oui. Oula, mais et Miloslouski, je pense qu'il faut le prendre, oui.
Miloslouski dans la liste, a priori quand même, avec Julien Pierre, ça c'est une certitude. Avec Lionel Nallet, il en manque un.
Et Julien Pierre, Pascal Papé.
Lionel Nallet
et
Miloslouski.
Et peut-être le retour de Miloslouski, parce que malheureusement, je crois que Thion pâtit beaucoup de son tournoi cette saison.
Oui, je suis d'accord.
Et en première ligne, messieurs.
Ah, alors là, la première ligne. Alors là.
La première ligne.
On
a déjà eu ce débat, donc on va pas, parce que forcément, ça n'a pas beaucoup changé sur le poste de pilier gauche. On connaît les certitudes. Nicolas Mas, ça c'est une certitude. Au poste de pilier, on va retrouver sans doute Sylvain Marclonnet si son épaule va mieux.
Poulx, indispensable parce qu'il est polyvalent, à mon avis.
Poulx, peut-être parce qu'il est polyvalent. Du Calcon, c'est une certitude.
Alors là.
Et là, derrière, il en faudra un cinquième.
À Forestier.
Forestier. Pas de Jérôme Schuster.
Ah, moi je préfère Forestier.
Philippe Léo.
Ben moi je crois que ce que je pense de Jérôme Schuster.
Ouais, je crois qu'on sait.
Non, c'est
tu peux répéter?
Franchement, je donnerais vraiment la priorité à un joueur comme Yannick Forestier qu'on a vu plusieurs fois en France, qui a été dans la filière fédérale depuis longtemps, hein. Donc pour moi il y a pas de débat, voilà.
C'est curieux, il est d'accord avec moi, Philippe.
C'est très très bizarre, c'est surprenant. Je comprends plus rien ce qui se passe dans cette émission.
Mais entre connaisseurs, on s'entend.
Deuxième et dernier problème en première ligne, ce sera celui des talonneurs. Alors, il y a évidemment pas grand monde pour contester la sélection d'un certain William Servat.
Personne.
La bûche qui sera évidemment le fer de lance de cette équipe de France. L'autre question, c'est de savoir qui derrière. Guillaume Dirado, rebaptisé le lanceur de pizza depuis le pizzaiolo par Pierre Saliac.
Du tonus, certainement, mais dans les lancers, je suis désolé.
S'il y en a trois, le deuxième sera évidemment Dimitri Zarzewski. Est-ce que pour le troisième, on doit se poser la question de savoir si Guillaume Dirado...
Et qui tu mets?
Benjamin Noirot.
Oui, c'est l'alternative.
Philippe Spandiro.
Moi, je suis d'accord. Ouais. Depuis le début, j'aurais essayé plus souvent Benjamin Noirot. On l'a vu qu'une fois contre les Fidji. Et c'est dommage parce que vu le peu de temps de jeu qu'on a donné à Guillaume Guirado, si on avait mis Noirot à la place, on aurait pu voir un peu ce qui valait alors qu'on savait à quoi s'en tenir avec Guillaume Guirado. Et c'est dommage, je trouve qu'on a perdu un peu de temps avec ce joueur.
Quoi qu'on peut essayer Chabal au talonnage aussi. Hein.
Drôle. Drôle, Pierre Saliac.
Oui.
Attends, mais les VIP seraient contents ?
Très, très drôle. Et bon, on va considérer que Guillaume Dirado sera dans la liste.
Oui, ça me paraît évident.
A priori, malheureusement pour Benjamin Noirot. Ouais, et résultat, le Racing.
Et Bruno, non ?
Résultat, Bruno, le Racing, tu auras très, très peu. Non, pas Bruno.
Ah
non,
bon ?
Pas Bruno. 35 ans, Bruno.
Mais c'est pas une question d'âge.
Bah, c'est un peu une question d'âge aussi.
Ah bon, c'est une question d'âge ?
C'est un peu une question d'âge aussi.
Ah d'accord. Il n'y en a pas de 35 ans dans d'autres sports ?
Il est déjà sélectionné avec les Barbarians britanniques.
Oui, pas moi, je te signale.
Bah oui, c'est dommage.
Ils t'ont pas pris ?
Non.
Non, ça c'est une honte par contre.
Au talon, non, Pierre Saliac ?
Au talent, oui.
Au talent, surtout. Talent d'or.
Talent d'or.
Peut-être. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. On va vous
c'est
garder
fini
évidemment.
On s'en
non,
va
c'est... non, regarde l'heure.
Ah
midi
bon
20.
Non, parce que c'est l'heure de manger pour
c'est
moi.
C'est pas une heure pour partir, c'est vrai, tu manges tôt maintenant. Non, je voudrais qu'on accueille Ludovic Ninet, évidemment habituel dans cette émission, juste après la publicité, car on va se pencher également sur l'actualité du top 14. On suivra évidemment la liste sur RTL Équipe, le www.rtl-l'équipe.fr, la liste de Marc Lièvremont annoncée demain, pour savoir si Sébastien Chabal en fait
une
ou non
partie. Une demi-page dans l'équipe aujourd'hui, il faut arrêter avec le buzz. Là.
Ben non, mais c'est important. Quand
même.
Les Français
bien
se
sûr,
posent cette
bien
question,
sûr,
Pierre
oui,
Saliac.
Oui, ça prouve où est tombé notre rugby, oui.
Non.
Ah si, si.
Ça prouve que le rugby est devenu un sport populaire, Pierre
non,
Saliac.
C'est devenu un business.
On y revient dans quelques instants. On parlera top 14 aussi, mais pour l'instant, c'est la pub sur RTL Équipe.
Sur RTL Équipe, c'est carrément rugby jusqu'à midi et demi. RTL Équipe... Carrément rugby. Clément Grèze.
9 minutes pour conclure Carrément rugby. On accueille donc Ludovic Ninet de rugbyconnection.com, ce qui me permettra de citer pour la 4e fois rugbyconnection.com. Salut Ludo.
5e.
Salut Clément, salut à tous.
Ça va bien
ramener, Ludo, hein, si tu veux.
Ouais, écoute, ça va. Ouais, moi je suis noyé dans mes fiches des internationaux français. Là,
ah, mais... donc tu dois avoir les 33 alors, vas-y.
Bah, même pas, figure-toi.
Ah, non, tu penses, faut que je prépare le coup. J'en ai 50, plus de 50 à faire là, c'est l'éclat.
T'as été bon parce que moi à ta place, j'aurais dit, je l'ai fait, mais je fais les 33.
Non, alors on va préciser quand même pour tous nos éditeurs qui comprennent peut-être pas ce dont on parle que Ludovic Ninet a donc été chargé récemment par la Fédération française d'établir les fiches de tous les potentiels sélectionnés. Alors, est-ce qu'on t'a donné un cadre au moins?
Ah non, pas du tout, c'était à moi de l'établir en fonction des hypothèses qui sortaient dans les médias de ces
donc, est-ce que tu as fait une fiche sur Adrien Planté, par exemple?
Je la ferai tout à l'heure, ouais.
On va pas l'oublier, celle-là, parce que ça pourrait être la surprise de Marc Lièvremont, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, on en reparlera durant les prochains jours de cette liste. Je voudrais qu'on revienne, messieurs, sur l'actualité du top 14, quand même, parce que tout s'est finalement décompté ce week-end avec les qualifications directes de Toulouse et du Racing pour les demi-finales à Marseille et les affiches des deux barrages Clermont-Biarritz et Castres-Montpellier. Premier sentiment, Ludovic Ninet, sur cette dernière journée, qui a donc vu ces deux équipes, finalement, de Castres et Montpellier, réussir l'incroyable exploit pour l'une de finir troisième du championnat et de recevoir à domicile en barrage, et pour l'autre, de se qualifier au détriment d'une équipe de Toulon absolument catastrophique.
Ouais, alors pour Castres, je sais pas si les autres sont d'accord avec moi, je sais pas si s'il faut parler d'exploit, parce que Castres, ils ont quand même fait une très belle saison, une deuxième en suivant après celle de l'année dernière. Et puis c'est vrai qu'on disait la semaine dernière qu'on en avait trop peu parlé tout au cours de la saison, mais ils étaient quand même là et solides. En revanche, c'est vrai que pour Montpellier, vu leurs dernières semaines, on pouvait craindre un faux pas, mais c'est vrai que ce fut extrêmement enthousiasmant de les voir à ce niveau-là, niveau d'engagement et niveau de jeu retrouvé, pour voir une telle différence effectivement avec un Toulon qui a tant d'autres moyens et qui se casse la figure sur la dernière marche.
On pensait pas, Philippe Spengler, que ça pouvait être à ce point catastrophique pour les Toulonnais, c'est cette finale du championnat pour eux.
Non, on pensait pas, j'ai été très surpris, franchement, je croyais pas à un scénario comme celui-là, parce que je trouvais que les dynamiques étaient plutôt en faveur des Toulonnais et non pas des Montpellierens. Ils m'ont agréablement surpris, je pensais pas qu'ils aient autant de maturité dans ce groupe et qu'ils soient capables de gérer des événements avec autant de pression auxquels ils sont pas habitués, et ils ont fait un très très bon match. Ils ont largement mérité leur victoire face à des Toulonnais qui, eux, pour le coup, ont pas du tout été à la hauteur de l'événement. Et voilà, ça fera plaisir à Pierre Salviac, mais c'est la preuve qu'aujourd'hui...
J'ai une belle morale.
Voilà, le budget et la gestion des stars suffit pas à faire un collectif et à gérer des événements comme celui-là.
Et Butch, la réponse à ça, c'est... Ça prouve qu'on n'a pas encore assez de stars, donc pour faire mieux, je vais prendre encore davantage de stars. Est-ce que le rugby n'est pas malade quand le président d'un club, et surtout un club comme Toulon, fait plus de médias que les joueurs ?
Ouais, c'est le président de ce club qui est malade. Et je ne sais pas si c'est le rugby en général, mais c'est vrai que...
C'est nous qui lui donnons l'antenne, hein.
Comment ?
C'est nous qui lui donnons la surface aussi, hein, pour s'exprimer.
C'est vrai, on se laisse certainement piéger par tout ça, et c'est certainement une erreur. Il faudrait tirer enseignement de ce match magnifique des Montpellierens, justement, pour mettre la lumière peut-être sur d'autres équipes.
Oui, et sur des mecs comme Béchu, dont on ne parle jamais, mais qui sont toujours là à la fin de la saison.
La qualification des Montpellierens, qui vont donc retrouver Castres. Castres-Montpellier, c'est un petit peu l'affiche inattendue de ces barrages, disons-le clairement. Oui. C'est une autre façon de voir le rugby, de construire un club de très très haut niveau. Oui. Et Ludovic te posait la question, Pierre, mais ça te fait plaisir.
Mais je te dirais même mieux que Castres peut-être l'inattendu en finale. Hein.
Ah bah c'est tout à fait possible. On rappelle que le vainqueur de cette confrontation
réfléchis,
sera opposé au Racing
Métro
92.
Regarde ses atouts, regarde sa petite expérience et regarde ses entraîneurs. Tu connais pas le président à Castres, hein ?
Bah c'est...
Non, tu connais pas le président, mais tu connais les joueurs.
On rappelle quand même que l'ancien président castrais...
Non mais je te parle le président là, qui c'est le président ?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est
discret. Bah voilà, c'est tout.
Et je dirais qu'à Montpellier, c'est la même chose. Hein. C'est vrai qu'il y a eu encore des remous tout au cours de la saison. Et finalement, le club est détenu maintenant par Louis Nicolas. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas parler. Et c'est aussi bien de voir qu'il y a des équipes qui savent se concentrer uniquement sur le sportif. Après, pour ce match Castres-Montpellier, évidemment, Castres aura l'avantage de jouer à domicile. Castres est une équipe peut-être qui me paraît plus puissante que Montpellier. Mais,
invaincu, invincible à domicile, hein, Ludovic, on le rappelle.
Pardon ?
Invaincu et invincible à domicile cette saison, on rappelle les Castres.
Voilà, mais après, c'est vrai que... Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que Montpellier va être capable de rebondir après le match du week-end dernier ? C'est certainement une des clés importantes de ce match.
Et l'autre clé, c'est teler 52% des points de Castres cette saison.
Et on rappelle que ce quart de finale, cette affiche des quarts de finale, c'est peut-être le rugby terroir, ou en tout cas ce qu'il en reste. Castres-Montpellier, c'est pas non plus exactement...
C'est, moi, ça me plaît beaucoup parce que ça me rappelle le rugby d'avant 95.
Mais alors, de l'autre côté, Pierre, parce que de l'autre côté, il y a quand même un autre quart de finale, un autre match de barrage. Oui. Il est midi 27. Il faut en parler quand même, il faut en dire quelques mots. C'est ce match entre Clermont et Biarritz. Ça aurait pu être une finale, Ludovic, Philippe. Je ne sais pas qui veut la parole, mais c'est vrai qu'on va perdre un très très gros à l'issue de ces matchs de barrage. Alors, c'est normal parce qu'on se rapproche des finales désormais.
Une finale, peut-être pas, parce que Biarritz a fait une saison quand même assez irrégulière. Ils sont sortis de cette mauvaise passe, surtout en fin de saison. Mais est-ce qu'ils auraient mérité d'être en finale au vu de leurs prestations depuis le début de la saison? Je crois pas. Donc la logique voudrait que, en plus à la maison, Clermont s'impose, même si c'est vrai que c'est une belle affiche.
C'est vrai que ça nous donnerait des demi-finales, Ludovic Inet, Toulouse, Clermont et Racing Castres. On n'en est pas là, évidemment, sur cette affiche des quarts de finale entre Clermont et Biarritz, si vous voulez ajouter.
Ouais, non, moi je voulais juste dire que c'est vrai que c'est vraiment intéressant de voir Clermont finalement là encore à ce stade de la saison, après une saison elle aussi très très irrégulière, et après quatre phases finales de suite ces dernières années, bah, je suis vraiment curieux de voir comment Clermont peut vivre cette phase finale privée, faut le rappeler, de Rougerie et de Domingo quand même, deux joueurs importants.
Et Clermont qui a démontré tout au long de la saison qu'à l'extérieur il était fragile. Là, alors là ils vont jouer à l'extérieur.
Non, ils vont jouer à domicile.
Non, ils jouent chez eux.
Non, la demi-finale.
Ah oui,
ah, t'en es déjà au quart, toi.
Bah oui.
Ah oui, non, moi j'étais déjà à l'ennemi.
Déjà à l'ennemi, toi.
Ah oui, j'étais déjà à l'ennemi. Excuse-moi. Bah oui, parce que je considère. Mais non, parce que par défaut, je considère qu'un club qui reçoit se qualifie.
Oh bah non, faut pas.
Ah bah.
On rappelle que Clermont avait eu toutes les peines du monde.
Oui, mais à l'arrivée, il y a quoi à l'arrivée?
Oui,
qualification de Clermont. Oui, donc voilà.
C'est sûr. Cette dernière journée qui a été très intéressante, absolument passionnante à vivre. On rappelle que les Bayonnais ont échoué à rien, à peut-être un point de bonus offensif sur la pelouse de La Rochelle, que Perpignan s'est une nouvelle fois incliné à domicile, que le Racing s'est imposé sur la pelouse du Stade français, que Bourgoin a disputé son dernier match dans l'élite. Je voudrais qu'on conclue là-dessus. Ça y est, Bourgoin, c'est fini. Lionel Nallet, à l'issue de la rencontre, a eu des mots très très forts. Il rappelait toute la tristesse des anciens Bergaliens. Pierre, bah, j'ai presque envie de te poser la question à toi. Voilà, c'est fini. C'est une page de l'histoire du rugby français qui se tourne.
C'est assez curieux de constater que Lyon et peut-être Grenoble vont prendre la place de Bourgoin. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers les grandes villes. Montpellier, dans le top 6, c'est une grande ville. On voit plus Béziers qui est descendu en fédéral, Narbonne qui est mal en point. Voilà, on y arrive petit à petit, on arrive vers le rugby des grandes villes. Est-ce que c'est un bien? Je suis pas sûr.
C'est beau de finir sur cette musique.
Oui, mais c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça, parce que j'avais envie de pleurer quelques instants avec vous, et puis Pierre a la larme à l'œil. Enfin bon, bref, c'est terriblement émouvant.
Qu'ont-ils fait de notre rugby, mon Dieu ?
Merci beaucoup, messieurs. Merci Ludovic Ninet de nous avoir consacré quelques instants.
Avec plaisir.
Merci également à Philippe Spanghero. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les mardis dans Carrément Rugby, 11h30, midi et demi. Merci également à Pierre Salvia.
Salut mon Fifi !
À très très
salut,
vite.
À mardi prochain.
À mardi prochain, évidemment, pour un nouvel épisode de Carrément Rugby. Même lieu, même heure, vous le savez. 11h30, midi et demi, c'est Carrément Rugby. Le rendez-vous de l'Ovalie sur le www.rtl-l'équipe.fr.